Je vous propose aujourd'hui une lecture dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, et nous lisons les quatre premiers versets. Exode, chapitre 32, verset 1er. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la religion du veau d'or, comme je vais l'appeler, est de retour. Et pourquoi ? Il s'introduit dans certaines églises depuis quelques années des façons de faire, des comportements, des aspirations, des doctrines même, qui s'apparentent à l'apostasie dans laquelle a sombré le peuple de Dieu au pied du Sinaï. Je vous propose de considérer avec moi, à la lumière de la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, quelques caractéristiques de cette religion du veau d'or. De toute évidence, en premier lieu, c'est la religion de l'impatience. Je lis en effet au verset 21, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Nous savons que Moïse était monté sur la montagne à la rencontre de l'Éternel, ainsi que nous le lisons au chapitre 24 de l'Exode et au verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Dans la parole de Dieu, 40 est le symbole de l'épreuve. Le peuple, malheureusement, n'est pas sorti triomphant, c'est le moins que l'on puisse dire, de cette mise à l'épreuve. Il est évident qu'après ces 40 jours, Moïse allait redescendre de la montagne vers son peuple. Mais le peuple, lui, n'a pas su attendre, et je vais y revenir. En ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons qu'il est monté au ciel, mais qu'il doit aussi en redescendre, et qu'il revient pour chercher les siens, selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, « Le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Il est indispensable, mes frères et sœurs, que nous traversions victorieusement l'épreuve de l'attente, que nous soyons patients pour ne pas sombrer comme Israël. Entendons l'Épître aux Hébreux au chapitre 10, les versets 35 à 39. « N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Avez-vous remarqué comme le Saint-Esprit insiste sur la nécessité d'être patient lorsqu'il nous parle du retour de Jésus-Christ? Il est écrit dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, les versets 7 et 8, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Et encore, dans la seconde épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers l'attente patiente de Christ. Israël a vu que Moïse tardait à descendre de la montagne, et cette gangrène de l'impatience a été la cause d'une grande apostasie. L'Église de Jésus-Christ n'est pas à l'abri de ce venin qu'est l'impatience. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable ? Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même « Mon maître » tard à venir. » Vous remarquez, c'est la même pensée qui animait Israël des siècles plus tôt. « Mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, etc. » Vous constatez comme moi les ravages de l'impatience dans la vie de ce serviteur que Jésus qualifie de « mauvais ». La violence à l'égard de ses compagnons, il les bat, il mange et boit. Alors vous me direz, mais tout le monde doit le faire pour vivre, je suis d'accord avec vous, mais ce que Jésus ajoute montre toute la corruption qui a gagné ce serviteur. Il mange et boit avec les ivrognes. Autrement dit, il y a dans la vie de ce serviteur l'abandon de la vie de l'esprit, l'abandon de la marche selon l'esprit, la perte du fruit de l'esprit, qui est la patience, la perte de l'onction au profit des œuvres de la chair, entre autres l'ivrognerie et les excès de table, ainsi que Paul les mentionne dans le chapitre 5 de son épître aux Galates. Veillons donc à cultiver la patience, et en particulier vis-à-vis du retour de Jésus. Paul écrit dans sa seconde épître, c'est l'apôtre Pierre, pardon, et Pierre qui écrit dans sa seconde épître au chapitre 3, les versets 3 et 4, « Dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Mais où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Il y a dans la bouche de ces gens une remise en question de la promesse du retour de Jésus, d'où leur moquerie et leur raillerie. On souhaiterait vivement que ces propos et ses attitudes de cœur ne se trouvent qu'au milieu des impies, mais hélas, certains chrétiens, j'oserais mettre le mot entre guillemets, certains chrétiens ne croient plus au retour de Jésus. Il suffit d'écouter ce qu'ils disent. Il y a 80 ou 90 ans, les prédicateurs prêchaient haut et fort que Jésus allait bientôt revenir, attendant de l'auditoire des alléluia sonores et approbateurs. Ils faisaient chanter cette prétendue vérité à chaque réunion évangélique, mais les décades ont passé et Jésus n'est toujours pas revenu, disent-ils. Certains autres n'osent pas avouer ouvertement leur incrédulité, mais leur comportement les trahit. S'ils croyaient au retour de Jésus-Christ, ils s'y prépareraient, ils se sanctifieraient, ils pratiqueraient chaque jour davantage la justice. Ils aimeraient cet avènement, ils le désireraient avec une grande ardeur. L'Esprit de Dieu dirait en eux « Amen, viens Seigneur Jésus ». Ils chercheraient à gagner le plus grand nombre d'âmes possible à Christ, mais rien de tout cela. Au contraire, ils s'investissent corps et âme dans les choses de la terre, ils cherchent à gagner toujours plus d'argent, ils font tous leurs efforts pour grimper les échelons de la réussite sociale, professionnelle, ils rêvent de rouler dans une voiture plus luxueuse, de s'offrir des loisirs de plus en plus coûteux, et bien d'autres choses encore. Certes, lorsqu'ils se rendent à l'église, comme ils disent, ils mêlent leur voix aux autres pour chanter « Jésus revient ». Mais ils mentent, ils n'y croient plus. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que le moment où certains chrétiens mentent le plus, c'est lorsqu'ils chantent des cantiques. Oui, ceux-là dont je viens de parler sont adeptes de la religion du veau d'or, la religion de l'impatience. Ils passent l'examen de l'attente patiente de Christ, mais ils échouent et ils ne reçoivent pas leur diplôme des mains du Seigneur. Ils ouvrent au contraire tout grand la porte de l'apostasie. Bien-aimés frères et sœurs, celui qui nous a sauvés, que nous avons reçu comme Seigneur de notre vie, que nous aimons et qui est monté aux cieux, va revenir. Même s'il semble tarder encore, il va revenir. Il l'a promis, il dit la vérité, il est la vérité. Attendons-le dans la fermeté d'une patience inébranlable. Dans la perspective de son retour, notre Seigneur nous exhorte, vous le savez, à la prière et à la vigilance. Que de fois il a répété « veillez et priez ». Sous prétexte que le Maître tarde à revenir, ne nous laissons pas gagner par le sommeil spirituel. Ne soyons pas semblables aux 10 vierges, à propos desquelles Jésus nous dit « comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent ». Craignez, nous dit-il encore, que le Maître ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Je vous dirai en second lieu que la religion du veau d'or, c'est la religion de la prise du pouvoir spirituel par le peuple. Verset premier de notre texte d'aujourd'hui, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous ». Vous avez bien entendu, le peuple. Ce sont les premiers mots de ce funeste chapitre. Et cette prise de pouvoir par le peuple est tellement évidente que le texte hébreu le mentionne deux fois. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne, et le peuple, le mot est répété pour la seconde fois dans le texte original, le peuple se rassembla près d'Aaron. Jusque-là, la conduite et la direction spirituelle du peuple étaient assurées par Moïse et par Aaron. Ils recevaient de l'Éternel toutes les directives dont les enfants d'Israël avaient besoin. D'autre part, lorsque Moïse s'apprêtait à monter sur la montagne, selon l'ordre de l'Éternel, il dit aux anciens, « Voici, Aaron et Hur resteront avec vous, et si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. » Il est donc clair qu'Aaron et Hur avaient reçu de Moïse la charge de diriger le peuple. Mais un temps nouveau semble se lever. C'est maintenant le peuple qui veut prendre les choses en main pour instituer la religion du veau d'or. Et il le fait sur un ton énergique, déterminé. Allons, fais-nous un dieu. Lève-toi, dit littéralement le texte hébreu, ou encore debout, comme le traduit la version Tombe. Le peuple tranche. C'est lui qui décide. Le peuple manifeste. Le peuple invente pour sa perte. Et Aaron apparaît étrangement mou dans cette affaire. La tradition rapporte que Hur fut mis à mort pour avoir voulu résister au peuple et qu'après cela, Aaron, effrayé, céda à la demande des Israélites. Alors ce n'est que le rapport de la tradition, laissons-la de côté, contentons-nous de la parole de Dieu, elle est amplement suffisante pour notre instruction. Il nous faut maintenant considérer attentivement l'Église de Jésus-Christ. Elle n'est pas une démocratie, n'en déplaise à beaucoup aujourd'hui. Dieu a voulu des ministères pour paître, exhorter, diriger, soigner, perfectionner, édifier, organiser son Église. Alors bien évidemment, cela sous-entend, je vous l'accorde, qu'il y ait de véritables hommes de Dieu, réellement nés de nouveau, des hommes remplis du Saint-Esprit, attachés à la parole de Dieu, la prêchant avec fidélité et paissant le troupeau de Dieu avec amour, avec douceur et aussi avec une sainte autorité pour l'édification de l'Église et non sa destruction, laissant toute la souveraineté au Saint-Esprit. Et lorsqu'il en est ainsi, le peuple de Dieu est en sécurité. Mais lorsqu'il commence à dire aux responsables spirituels « Debout, faites-nous un Dieu », la religion du veau d'or n'est pas loin. Où est donc passée l'autorité, la sainte ascendance d'Aaron sur les enfants d'Israël à ce moment-là? Regardez-le, l'homme devenu craintif, qui abandonne tous ses repères, tous ses appuis divins, et qui va céder au peuple dans le souci de ne pas lui déplaire. En son temps, le prophète Ésaïe disait des principaux de la nation, ses gardiens sont aveugles. Tous autant qu'ils sont, sont sans intelligence. Ils sont des chiens muets, ils ne parviennent pas à aboyer. Ésaïe 56, verset 10. Jérémie a dit quelque chose de semblable de la part de l'Éternel. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Jérémie, chapitre 23, verset 22. Je voudrais vous dire qu'Aaron aurait dû aboyer. Vous comprenez ce que veut dire l'Éternel. Je reprends ici les mots du prophète Ésaïe. Aaron aurait dû aboyer. Il aurait dû aboyer contre la folie des enfants d'Israël. Il aurait dû aboyer contre leur désir brûlant de l'idolâtrie, contre l'amorce d'une horrible apostasie. Mais non, rien de tout ça. Lorsque plus tard, Moïse va lui demander des comptes, écoutez les paroles du lâche à Aaron. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu. En résumé, le peuple fait connaître sa volonté. Il prend les rênes en main, il commande, et le responsable qui, encore une fois, j'insiste, aurait dû aboyer, cède aux demandes des idolâtres. Le drame de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, son apostasie, a la même source. Il y a, d'un côté, un peuple qui a la démangeaison d'adorer un nouveau Dieu, d'embrasser un nouvel évangile, de suivre un nouveau Jésus, et de l'autre côté, des responsables qui, par peur de perdre une fraction de leur auditoire, par crainte de ne plus avoir les rentrées d'argent suffisantes pour faire tourner la maison, passez-moi l'expression, par peur de ne plus paraître dans le coup et d'avoir la désapprobation, pour ne pas dire plus, de la part de leurs collègues, baissent les bras et voient sortir du feu le veau de la nouvelle religion. Les jeunes m'ont dit, ils veulent, alors vous comprenez, je ne veux pas les perdre. Mais vous êtes en train de les perdre, mon frère, d'une autre manière, mais vous les perdez. Une partie du conseil d'administration m'a dit, désire, a décidé, je ne veux pas les contrarier, la sagesse d'en haut n'est-elle pas conciliante ? Elle ne l'est pas quand il s'agit du veau d'or, mon frère. Et puis, le mouvement auquel j'appartiens suit cette ligne-là, que puis-je y faire ? Aaron a certainement été envahi de pensées semblables quand le peuple s'est assemblé près de lui, un vrai mouvement d'ensemble, une véritable unité autour d'une même vision, d'un même projet, d'un même dessein. Un veau d'or. Les pensées d'Aaron étaient loin à ce moment-là de Moïse, qui était dans la sainte présence de Dieu sur la montagne, ce Moïse qui allait bientôt en redescendre et demander des comptes. Les pensées, les affections du peuple de Dieu et de ses dirigeants devraient être constamment tourné vers le Seigneur Jésus-Christ qui, monté en haut dans la gloire du Père, va bientôt revenir et fera rendre à chacun des comptes selon ses œuvres. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé pendant qu'il le regardait, nous dit le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 9 à 11, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » La religion du veau d'or, c'est donc la religion de l'impatience et la religion de la prise du pouvoir spirituel par le peuple. Que Dieu en préserve celles et ceux qui veulent lui rester fidèles. Et que Dieu ramène celles et ceux qui se sont égarés avant qu'il ne soit trop tard. Amen.